Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Usted está Terre d'Alliance.
Sur France,
France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Bonjour.
Alexandre.
Bonjour.
Bonjour.
J'avais vu qu'il ne peut pas s'empêcher, mais...
C'est nouveau. C'est la liqueur de dessin.
Liqueur. C'est vraiment liqueur.
C'est vraiment liqueur. À boire avec modération, comme d'habitude.
C'est vendredi saint. Alors nous pouvons cacher ça pour les Pâques orthodoxes.
On peut trinquer maintenant, maintenant que la Pâque orthodoxe et le vendredi saint sont passés. Trinquons pour ouvrir cette seconde promenade en terre odessite, au bord de la mer Noire, en Ukraine. Trinquons à ce pays aux portes de l'Union Européenne et voisin du géant russe, à cette terre au futur incertain et au présent assombri par un conflit commencé en novembre 2013. Une guerre fratricide dont les échos que l'on a pu sonder hier ne sont pas si lointains à Odessa et risquent fort aujourd'hui encore de retentir dans cette nouvelle balade francophone et francophile dans l'éternelle insoumise.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Dans cette belle endormie, la Marseille de la mer Noire, cette ville fondée par le duc de Richelieu en 1794, un compatriote rencontré hier à Odessa, Odessa, la splendide, la baroque, la superbe, la cosmopolite, la romantique, mais aussi... la langue. Dans cette ville sans nul autre pareil, le français résonne un peu partout. Et les Français, confessons-le, car cela est plaisant, sont chéris. Ah, le français. Celui-là même que parlait Pouchkine qui séjourna ici, avant tous les autres écrivains, qui louèrent la splendeur des vieilles rues de la cité portuaire. La ville mythique des steppes ensoleillées baignées par la mer, abritant les bandits des contes et récits d'Isaac Babel, est sorti 15 diadèmes de la Seconde Guerre mondiale. C'est un bijou architectural. Il faut lire et relire Babel pour comprendre ce que fut l'esprit de cette cité melting pot non loin du delta du Danube. Une ville que l'on nommait la Porte de Sion, où se croisaient tous les marins du monde. Et puis, répétons-le, amis auditeurs francophones et francophiles, il y a notre langue qui sonne, résonne, et parfois dans des lieux qui ne sont pas que ceux des locaux de la flambante Alliance française. Yaroslava, on est où là précisément?
Alors on est juste devant l'école publique avec l'apprentissage approfondi de la langue française. Donc c'est une école spécialisée en français depuis plusieurs années.
C'est là où vous l'avez appris vous?
Oui, bien sûr. Oui.
Ah.
C'est le parcours classique, on va dire, de tous les francophones d'Odessa. Et c'est, on va dire, que la seule école qui est bien placée pour le français.
Et le français, justement, on décide de l'apprendre pour quelle raison?
Même à l'Alliance française, chez nous, là où je travaille en ce moment, on a toujours la motivation numéro un, c'est par plaisir, par amour à la langue, parce que la langue est bien sonore, elle est jolie, ça fait rêver, c'est romantique, c'est...
C'est tout ça?
Oui, oui, oui. Et bien après, on a les autres motivations comme immigration pour les études ou pour rejoindre ma famille en France, etc. Je me souviens être une toute petite fille. Ma mère, elle était passionnée pour le français et quand elle était jeune, elle voulait devenir institutrice. Mais son père lui a interdit. Il a pensé qu'être comptable, c'est mieux. Et donc, peut-être par amour envers la langue, le métier, elle m'a placée, elle a voulu me placer dans cette école.
Et, ouf! On rentre dans le bâtiment parce que nous attend Volodymyr Selakin, qui dirige à la fois cette école donc numéro 10, mais qui est aussi aujourd'hui l'actuel président de l'Alliance française.
Bonjour, monsieur.
Donc vous aussi, vous
bienvenue en France. Mais...
en France, vous dites oui, quand on rentre dans l'école 10, on est
parce
en France.
Que c'est... Oui, c'est en France, mais la petite France, très douce.
Il n'y a pas un moment dans l'histoire où on a appelé Odessa la petite Paris aussi?
Oui, c'est pourquoi on dit la petite France. Et l'influence des Français ici à Odessa est immense. Voilà. Même aujourd'hui, on est toujours coude à coude avec les Français. C'est l'expansion de la civilisation française à Odessa aussi. Hein. Alors, au revoir.
Cet accueil fraternel de l'épouse du directeur de la bulle francophone d'Odessa, que représente l'école dite numéro 10, nous permet de nous propulser vers le bureau du tout-puissant directeur de cette institution qui a formé plusieurs générations de francophiles et de francophones. Et lorsqu'on lui demande comment définir sa ville qu'il adore, comme tous ceux que nous allons rencontrer, il ne dissimule pas son trouble.
C'est très difficile de dire, de répondre à votre question, mais à Odessa, il y a de tout. Odessa, théâtrale. C'est Odessa, poétique. Ça, c'est une ville des chanteurs, des écrivains. L'histoire est très riche de notre ville. Alors, si on se promène au centre-ville, on voit beaucoup de monuments contemporains à notre grand chanteur Utiosov, à Alexandre Pushkin, ou au gouverneur Deriba. Odessa, ça, c'est une ville des étudiants, de la jeunesse. C'est très difficile de dire de ce qu'il n'y a pas, de ce qu'on ne voit pas à Odessa. Il y a de tout.
Terre d'Alliance.
Ви слухаєте Terre d'Alliance в Одесі на France Inter à Odessa avec l'Alliance française Alexandre Héron.
Lors de ma présence à Odessa, l'Alliance française était dans son rôle de prescripteur et d'organisateur d'événements culturels. Et cette fois, au centre de la 12e édition d'un festival important dans le monde francophone ukrainien qui se déroulait pour la première fois dans cette ville. Tatiana, on est à quel endroit ici, là ? On entend des bruits derrière nous.
Nous sommes devant la salle où va avoir lieu le festival du théâtre francophone qui se déroulera à Odessa pour la première fois. Voilà, nous avons la répétition. Moi, je suis la responsable de la troupe d'Odessa.
Qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Alliance.
Oh. Oui. Mais ce n'est pas un tribut à l'Alliance
non,
française ?
Non, pas du tout, pas du tout. C'est tout à fait par hasard qu'on a choisi.
Mais pourquoi ? Pourquoi ce nom ?
Pourquoi ? Parce que... je crois que le destin, disons, de la troupe dépend du nom. Alors, pour être unis et pour être toujours ensemble, on a choisi ce nom.
C'est en français que, qu'en ce moment, on entend ces voix qui filtrent à travers la porte.
Oui, en français, bien sûr. Et c'est pas étonnant à Odessa d'entendre le français parce qu'il y a des liens qui datent depuis longtemps, des liens d'Odessa et de l'Ukraine et de la France. Et Odessa, elle a des relations avec Marseille, par exemple, comme la ville jumelée. Alors, à Odessa, c'est pas du tout étonnant d'entendre le français.
Et on tous là, on tous là, on узнал это место, где нашел эту...
Bonjour, je m'appelle Anna, je suis une étudiante de l'école d'architecture à Odessa. J'apprends le français parce que c'est une langue chic.
Chic?
Chic, oui.
Ah oui, mais ça veut dire quoi chic?
Chic, c'est quelques liens avec Belle Époque, peut-être.
Merci Anna, je vais aller voir le cours qui est à côté parce qu'ils vont tous partir. Bon.
D'accord, à bientôt.
Bonne chance.
Bonne chance.
Les plus fidèles d'entre vous vont reconnaître maintenant Sergueï Fyromine, ce professeur ayant été contraint de quitter l'Alliance française de Lugansk à l'est du pays, une alliance qu'il avait créée et qui fut fermée en 2014 à cause de la guerre qui y fait rage. Il nous l'avait raconté hier à la même heure. Là, il nous ouvre les portes de sa classe.
Ces filles-là, elles apprennent le français depuis l'année scolaire dernière. Mm-hmm. Voilà, donc finalement, un an et quelques mois. Donc, mais ce sont les adolescentes aussi, les adolescentes de 15 ans, 16 ans. Oui.
Et vous les avez préparées à essayer de réfléchir sur... sur cette relation un peu intime qu'elles peuvent avoir avec ce pays, avec cette langue. Pour eux, la France, c'est qui, c'est quoi?
Justement, pendant ce cours-là, depuis le début du cours, on a parlé justement des stéréotypes. La première question, c'est le portrait physique des Français.
Je pense que les hommes sont bruns, avec les cheveux frisés, et oui, et ils sont maigres.
Je pense que les femmes sont très élégantes. Elles ont les cheveux courts avec une frange. Et l'homme plutôt grand.
Je pense que chaque matin, ils mangent les croissants avec du café noir.
Chaque soir, ils boivent le vin rouge. Vin rouge.
Il y a des choses marrantes quand même, parce que c'est vrai que...
Vrai aussi.
Ah, voilà.
Oui, c'est ça. Et justement, parce que nous, on apprend à nos étudiants plutôt la langue de Victor Hugo.
Sergueï, votre professeur vient de parler de Victor Hugo. Qui connaît Victor Hugo? Qui a lu Victor Hugo?
J'aime beaucoup le Victor Hugo. C'est mon écrivain préféré. J'ai lu beaucoup de romans de cet écrivain en russe. Comment je peux dire en français, Virginie?
Les Misérables.
Les Misérables.
Les Misérables.
Les Misérables. Oui, c'est mon roman préféré de Victor Hugo.
Et donc, Victor Hugo est toujours plébiscité.
Oui, Victor Hugo est toujours plébiscité, mais on a aussi appris la poésie de Jacques Prévert, parce qu'il faut dire que Jacques Prévert, c'est mon poète préféré, et on a étudié la poésie Le Cancre.
Lecture donc de ce poème Le Cancre de Jacques Prévert.
Oui, Le Cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne. Et tous les problèmes sont posés, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces...
Pour continuer cette balade francophile à Odessa, où jaillit la langue de Prévert d'un peu partout, approchons-nous d'un personnage là-bas très respecté, Alexandre Garachouk, l'ancien vice-président de l'Alliance française, est aujourd'hui son président d'honneur. Il est dans son pays, déchiré par cette guerre fratricide, connu pour ses positions pro-ukrainiennes, d'autres diraient nationalistes ou patriotiques. Cet intellectuel est professeur de philologie à l'université, mais travaille désormais dans une usine appartenant à un groupe français qui fait partie des sponsors d'ailleurs de notre alliance française locale. Il y officie en tant qu'interprète auprès de la direction. Il y est une véritable interface entre elle et les autorités ukrainiennes. Il est à l'aise, Alexandre Garachouk, dans le rôle de trait d'union.
Ah ben, vous êtes obligé de pointer Alexandre Garachouk quand vous partez.
Oui, bien sûr.
On quitte l'usine. D'ailleurs, le nom de cette usine.
Bon, le nom de cette usine, c'est Ukraine Atlantique. Ukraine Atlantique, parce que Ukre pour Ukraine et Atlantique pour le groupe dont elle fait partie.
Ah, d'accord. Et on y fabrique
des chauffe-eau et des convecteurs.
Rien de très politique.
Tout ce qui, disons, relève du génie climatique. J'aime bien l'expression.
Et alors, quand vous avez envie comme ça ou la charge d'accompagner celui qui va découvrir pour la première fois cette ville, vous avez envie de l'emmener où, Alexandre Garachouk?
Bon, on commence toujours par, oui, tout droit, par les fameux escaliers.
Bien sûr.
C'est vrai que ça sent un peu le cliché, n'est-ce pas?
Les escaliers Potemkin, mais cliché, oui, mais enfin, bon, c'est quand même des plus beaux films de l'histoire du cinéma, là, des plus importants, des plus novateurs, oui. Celui des Einstein en 1925, c'est bien cela.
Tout à fait. Même si, historiquement parlant, il était assez faux. Hein. Donc, c'était une fiction totale. Le réalisateur a eu beaucoup d'imagination et, pour créer ce qui, en fait, n'a pas eu lieu.
Enfin, on va parler de tout ça, là. On laisse justement défiler le paysage et entre chien et loup, on se dirige vers ce qui a été peut-être le lieu de l'une des scènes majeures du cinéma mondial, cette fameuse scène de la descente du landau du cuirassé Potemkin par Eisenstein en 1925. C'est avec un grand plaisir que je vais découvrir cet escalier qui, en plus de ça, est architecturalement intéressant.
Vous ne l'avez pas encore vu? Ah voilà, félicitations. Donc, vous allez maintenant vivre un événement majeur de votre vie.
Le 12 juin 1905, le cuirassé Potemkin quitte la rade de Sébastopol pour des exercices de tir dans la mer Noire. Le 13 juin, le torpilleur 267 gagne Odessa pour y prendre des vivres, acheminé le soir sur le Potemkin. On apprend ainsi que la grève générale a été déclenchée à Odessa. Le lendemain matin, les matelots s'aperçoivent que la viande est avariée. Le médecin du bord déclare qu'il suffit de la laver à l'eau salée pour la nettoyer de ses vers. Devant la colère de l'équipage, le commandant fait un rassemblement sur le pont, sans grand résultat. Son second fait jeter une bâche sur un groupe que la garde met en joue. « Ne tirez pas sur vos frères » et la garde jette ses armes. Mais le commandant en second abat le meneur, c'est alors la mutinerie, officiers, médecins, pop en sont les victimes. Les mutins jettent l'ancre dans la rade d'Odessa, dont la population bientôt les encourage. Ouvriers et marins fraternisent. Mais les forces de l'ordre réagissent violemment. Tandis qu'à terre, on mitraille les civils, 8 navires traquent le Potemkin qui cherche à gagner la haute mer. Arrivés à la hauteur de l'escadre, les matelots révoltés gagnent à leur cause les autres marins qui les acclament. Le cuirassé Prince Potemkin de Tauride file majestueusement à travers la ligne d'escadre, symbole de la révolution triomphante.
Vous êtes d'accord, Alexandre Garachouk, avec cette assertion? Comme quoi, Eisenstein n'aurait pas fait, avec ce film, un film sur la révolution de 1905, qui a ouvert celle de 1917, comme on le croit, mais sur le prix à payer, tout simplement pour être libre.
Le prix à payer pour être libre? Moi, je le voyais plutôt tout à fait dans le droit fil de l'idéologie dominante à l'époque, et qu'il voulait illustrer, qu'il voulait, avec son, un génie, un talent qui sont les siens, donc indéniables, pour créer une scène qui n'a pas existé, qui n'a pas eu lieu. Donc c'est parce que c'était, d'après tous les historiens, donc bien sûr, l'Union soviétique s'était passée sous silence, eh bien, d'après tous les historiens d'Odessa, s'il y a eu quelque chose de remarquable à Odessa, c'était le formidable pillage du port d'Odessa auquel les marins insurgés se sont livrés en compagnie de la pègre locale. Donc on n'a jamais eu de fusillade. Et que la démarche d'Einstein est tout à fait, disons, similaire à celle de tous les grands artistes qui ont célébré le régime. Donc, qui, on le savait, comme tout régime totalitaire, avait aussi un côté esthétique très prononcé, très fort. Désolé, mais je le vois comme ça plutôt. Donc, je ne vois plus, pas du tout, comme vous l'avez dit...
Le prix à payer
pour la liberté. Libre. Pour aller la liberté.
Comme tout mythe, oui. Finalement, le découvrir en vrai, cet escalier, c'est finalement assez décevant.
Oui. Oui, en effet, oui. Mais, vous savez, je continue de cogiter à ce que vous venez de dire sur le symbole de la liberté, en quelque sorte. Pour moi, ukrainien, aujourd'hui, j'ai un symbole donc nettement plus proche. C'est les événements de 2014 à Kiev, où l'Ukraine a payé un lourd tribut, justement...
Place Maïdan.
Oui, c'est ça. Et donc, les pertes humaines, et pour moi, c'est un symbole encore vivant, où, justement, parce que comme je l'ai vu d'assez près, il serait vain, inutile, et donc de rechercher une dimension esthétique. Cette beauté donc, des gens qui, dans leur élan vers la liberté, c'est tout.
Euronews, 3 avril 2014.
Sur la place Maïdan à Kiev, près de 90 contestataires sont abattus par des snipers. Les résultats de l'enquête préliminaire sur cette tuerie viennent de tomber. Kiev met directement en cause la Russie et l'ancien président ukrainien pro-russe. Des agents des services secrets russes auraient ainsi participé à la planification et à la mise en œuvre de l'opération. Viktor Yanukovych aurait lui autorisé l'usage des armes contre les manifestants. Moscou et le camp pro-russe accusent, eux, des mouvements nationalistes ukrainiens d'être responsables des tueries.
L'actualité, dans un pays en guerre, nous rattrape toujours. Même si à Odessa, sur les bords de la mer Noire, loin de l'est du pays, on attendait alors plutôt qu'explose la saison touristique. On n'arrêtait pas de tous les côtés, et pas que dans les murs de l'Alliance française où les cours battaient leur plein, presque comme si de rien n'était, de me souligner que l'on vivait bien ici, hein ? Vous direz ceci, et vous pourrez le vérifier par vous-même. Et comme pour souligner que la vie quotidienne n'était pas affectée visiblement et suivait son cours, donc, mes interlocuteurs et guides de l'Alliance française Odessite ont décidé de me faire visiter un des lieux les plus emblématiques de cette ville, l'un de ceux qui lui sont étroitement associés, l'un de ceux que les nombreux juifs ukrainiens immigrés aux États-Unis, à Jérusalem ou surtout à Tel Aviv peuvent regretter éternellement dans leur exil toujours douloureux. On part vers le légendaire marché Privoz avec une des membres du comité d'administration de l'Alliance française, Katia Tchekina. Katia travaille dans l'industrie alimentaire, c'est une femme volontaire, une amoureuse de sa ville. Pascal Fourneau, le directeur de l'Alliance, fait le lien.
Katia doit nous attendre.
Oui, elle doit être juste à côté. Ah, la voici. Vous allez aller au marché, au plus grand marché d'Odessa, où vous trouvez absolument de tout. Donc, un plaisir pour les yeux, pour les sens. Donc, rendez-vous au marché Privoz.
Là, des poumons de la ville. Bon, mais parfait, donc on va faire les courses avec vous et on va découvrir un peu cette ville. Première étape, taxi. Il paraît que les taxis, il faut se méfier.
Ah ben déjà, je peux vous dire que pas dans tous les taxis, il y a des compteurs, déjà, c'est ça. Et autrement, si vous étiez venu en été, c'est très, très dangereux dans le sens de l'argent. Parce que vous prenez un taxi pour aller 10 minutes, ça vous coûte normalement, dirons, 10 euros. Mais un taxi fait une visite de la ville, quand vous ne connaissez pas la ville, bien sûr, et vous payez 50 euros, et c'est normal en été.
Donc ça, c'est le piège aussi d'être dans une cité balnéaire qui attire de plus en plus de gens à Odessa. C'est aussi ça, ne l'oublions pas.
Ah ben c'est vrai, à Odessa, normalement, en été, à partir du mois de mai, la population double et l'année dernière, ça a triplé à cause des touristes qui viennent de toute l'Ukraine, beaucoup d'étrangers, parce que la Crimée maintenant...
La Crimée n'est plus...
Comme elle est occupée, les gens n'y vont plus et donc c'est Odessa qui accueille 2 ou 3 millions de touristes, ça c'est sûr.
Taxi. Il y a quelque chose de très envoûtant quand on circule... sur ces larges allées qui sont toutes envahies de cette végétation qui, là, n'a pas encore explosé. C'est-à-dire qu'on a des arbres encore un peu tristes, mais très fantomatiques. Ils sont partout, ils font exploser les pavés, ils s'accrochent aux balcons, des balcons qui menacent presque sous leur poids de s'effondrer avec l'œuvre du temps. Et vous, Katia, vous n'êtes pas insensible à cette affaire-là?
Ah ben oui, il faut dire que le printemps, c'est la meilleure saison à Odessa, pendant que tout est en fleurs. Et moi, j'adore l'acacia, parce que en mai, le 20 mai, c'est la période d'acacia quand elle fleurit. Et quand j'étais en Lettonie, j'ai vécu pendant 2 ans, moi je rêvais d'Odessa, et je rêvais pas du duc de Richelieu, ni de Biscay Potemkin, mais de l'arôme des acacias fleuris.
Et qui vous envahissait comme ça, comme un parfum de nostalgie, comme ces brumes-là, comme une signature.
Oui, pour moi, c'est une signature de ma ville. Odessa, ça veut dire acacia.
Ah, parce que finalement, Odessa rime avec tellement de choses pour chacun. C'est une ville qui envoûte le visiteur et qui appartient à chacun de manière viscérale. D'ailleurs, il y a... pour les gens qui sont en exil, une difficulté énorme de l'oublier.
Bah oui, c'est vrai. Odessa, c'est un aimant, je dirais. Les gens qui viennent à Odessa, d'abord, ils ne comprennent pas, mais il y a quelque chose dans cette ville peut-être, mais on ne voit pas trop. Oui, c'est une ville comme les autres. Mais après, dans un certain moment, quand ils quittent, ils téléphonent, ils appellent, ils disent « Ah oui, tu sais, Katia, ça me manque quelque chose. C'est Odessa qui me manque. » Je pense que c'est un aimant.
Extrait du documentaire Odessa, Odessa de Michel Boganin, tourné en 2004.
Je revois toujours ma ville dans mes rêves. J'ai toujours rêvé d'être là-bas. Je ressens ce que l'on appelle en russe la nostalgie. Les gens me disent souvent, retourne là-bas, et ça te passera. Peut-être que oui. Mais peut-être que non. Odessa est une personne, c'est presque une personne.
Oui, bah vraiment, vraiment, c'est une femme en plus. C'est une femme très belle et qui a beaucoup de charme aussi, avec toutes ses fleurs, sa mère, et qui est très intelligente.
Nostalgie.
On arrive là ?
On arrive.
Katia, c'est quoi l'avertissement que vous me donnez?
Ah ben absolument faire attention à votre porte-monnaie, à votre passeport surtout, parce que sinon vous risquez de vivre en Ukraine jusqu'à la fin de votre vie, parce qu'on est au Privoz. Privoz, c'est l'endroit où valeurs sont partout. Attention.
Alors, c'est effectivement assez gigantesque et on laisse à notre droite un marché couvert et immense là. Vous voulez dire qu'il s'étend sur tout le pâté de maisons?
Oui, ça prend beaucoup de place, ça prend un bloc on dirait, c'est énorme. On trouve des produits fermiers, on trouve toutes sortes de légumes, de viande et l'essentiel, ce qui est important, on peut tout goûter. Quand j'étais petite, le samedi, on allait avec ma mère le matin au Privoz pour que je prenne mon petit déjeuner. Je goûtais un peu de tout et c'était délicieux.
Tout ça à l'œil?
Ah ben oui.
Alors là, il y a un stand de charcuterie assez étonnant avec le boudin, les oreilles de cochon. Ça c'est quoi?
Des moules.
Ah oui, des moules. Ouais. Et tous ces produits viennent de la mer Noire?
Oui.
Qu'est-ce qu'il veut, monsieur?
Смотрите, у нас такая ситуация сейчас. Хорошо.
Это микрофон.
Чтобы, я понимаю,
нет.
Чтобы людей не... И проблем с этим не будет.
Мы не снимаем.
Здравствуйте, девочки. Hello. Хорошо.
C'est
а что это вообще?
Это микрофон, секундочку. Это радио.
Нет, я понимаю. Что, откуда вы?
А кто,
сюда?
Пожалуйста, я ханя.
И пока за это фильмы?
Je pense qu'il veut avoir un bakshish.
Ah, d'accord. Ben, attendez qu'il est très impressionnant, il doit faire le triple de ma carrure, de ma stature. Peut-être le plus simple, c'est de lui demander combien il veut.
Non, il veut qu'on aille voir le directeur avant.
Ah.
Tu vois, les magouilles là-bas.
Ah oui, d'accord. Et lui, il représente qui alors, objectivement?
Il demandait son document, il n'a pas montré.
Ah oui, d'accord. Donc en fait, il ne représentait absolument personne. Et donc, notre racketteur a disparu, voilà.
Je pense qu'il va nous suivre. Il va appeler le directeur.
Mais alors, vous savez quand même que tous les guides touristiques, justement, préviennent les étrangers qu'il va y avoir un problème, alors avec la police, qui va vous demander effectivement le fameux bakchiche. On nous dit toujours d'avoir le passeport sur nous.
Mais vous savez, selon la législation ukrainienne, l'accès libre pour tous les journalistes, radio, télé, n'importe, c'est l'accès libre dans, partout en Ukraine, dans les restaurations, dans les marchés. Donc tout ce qu'il raconte, c'est des bêtises.
Il est derrière quand même. Hein.
Je suis derrière.
Oh là 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 là. Il doit faire un demi-quintin, c'est terrible.
Ça, c'est vraiment la spécialité d'Odessa. On a l'habitude de manger ce petit poisson qui ressemble un peu aux anchois.
Oui.
On le met juste en sel, c'est tout. Et on mange avec du pain.
Je peux en goûter un d'ailleurs là, non?
Oui, oui, oui.
Ça se mange cru?
Oui,
oui. Oui,
c'est pour madame.
Il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Ah, ça y est, maintenant on en a un deuxième. Mais vous restez imperturbable, c'est-à-dire que ça vous fait plutôt sourire qu'autre chose. Parce que là, il y en a un deuxième vraiment qui vient d'arriver. Quand même.
Oui, il est allé l'appeler.
Regarde, je dis, on n'a pas de caméra, on ne fait pas d'interview, alors qu'est-ce qui vous gêne? Et par contre, il fume. Je dis, fumer, c'est interdit sur le territoire du marché. Donc il faut connaître un petit peu la législation.
Mais vous n'avez pas froid aux yeux, hein?
Non.
C'est-à-dire qu'on apprend à lutter contre tout ce côté un peu pernicieux d'une société qui a l'habitude d'être un peu servile.
Mais voilà, vous voyez, je vous ai déjà dit qu'il faut commencer par soi-même. Si tu ne donnes pas de bakchiche, il n'y a pas de bakchiche. Il faut savoir lutter. Hein.
Là.
Comment on dit merci?
Спасибо.
Спасибо.
France Inter.
Personne n'écoute France Inter ici.
Terre d'Alliance.
Yaroslava, vous écoutez la radio française des fois ?
Un voyage planétaire.
Je n'ai pas vraiment le temps, malheureusement.
Au sein des Alliances françaises.
On avait quitté hier le placide marquis Christophe Lacarin au volant de son 4x4 que l'on retrouve ici avec des problèmes à l'allumage. Cet entrepreneur, fréquentant régulièrement les événements culturels organisés par l'Alliance française d'Odessa, est une figure locale que l'on dirait incontournable. Son élégance vestimentaire de gentleman farmer est entretenue savamment. Bottes de chasse en cuir et pantalons de cavalier, barbour, veste en tweed, gilet et foulard en soie, épaisses lunettes en écailles colorées et cheveux au vent et une crinière à la Fanfan la Tulipe. Forte carrure et taille haute. Voici le portrait de notre aristocrate tombé amoureux des terroirs ukrainiens. Il s'y est installé depuis 2006 dans la magnifique région d'Odessa, non loin de la mer Noire, sur les hauteurs convoitées aujourd'hui par les promoteurs immobiliers. Il y a trouvé dans ce pays une nouvelle femme et fait deux nouveaux enfants que cette fois-ci il voit grandir. Il lutte depuis son installation comme viticulteur contre diverses entraves au développement de son activité, raconte la presse pudiquement. Mais la chose est violente. Ses déboires avec le fisc font régulièrement la une des journaux en Ukraine. Dernier épisode en date, la saisie de son outil de production. Lorsque nous l'avons rencontré, à la fin de l'hiver, il préférait ne pas accabler les officiels et la justice ukrainienne, car il venait de recevoir une bonne nouvelle. Enfin, les autorités du pays lui autorisaient la licence qui lui permettait peut-être de vendre officiellement sa production viticole. Ce n'est que l'une des pages des nombreux chapitres d'une vie que Christophe Lacarin, le mystérieux, ne livre pas au premier venu. Il sait qu'il est devenu un exemple d'entrepreneur en lutte contre un système archaïque freinant le développement du pays.
Là, cette voiture, c'est quoi ?
Ah, ça, c'est le Grand Cherokee.
Alors, le problème, Christophe Lacarin, c'est que ce 4x4 qui vous sert à vous déplacer dans tout le pays, notamment dans vos vignes, non loin d'Odessa, puisque vous êtes viticulteur ici, ne fonctionne plus tout à fait comme vous l'aimeriez. Et c'est un peu à l'image du pays. C'est-à-dire qu'on aimerait que ça avance, et puis ça bloque. Et puis on ne sait pas tout à fait comment localiser les points de blocage. Et c'est un peu obsédant.
Le problème, c'est que, en fait, on a détecté la panne. On sait exactement d'où vient la panne. Mais il n'y a aucun réparateur qui veut changer la pièce. C'est à l'image du pays.
Et ça finit par fonctionner.
Oui, parce que ce pays est plein de ressources. Il est plein de ressources, pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, eux, sont pleins de ressources. Il y a dans ce pays un niveau d'éducation qui est très élevé. Très, très élevé. C'est un pays émergent. Dit émergent, mais avec un niveau d'éducation des personnels qui ont plus de 40 ans, c'est-à-dire qui ont été formés du temps de l'Union soviétique, qui est vraiment très élevé. Ça, c'est une chose. Sur le plan technique, je parle. Ensuite, vous avez une jeune génération qui, elle, est formée à de nouvelles méthodes, qui souvent s'est formée dans d'autres pays. Et donc, cette symbiose de ces deux capacités à transformer le pays est rassurante. Je crois qu'il faut un peu de temps. Chaque évolution, je n'aime pas le mot révolution, parce que révolvere, on revient au même point. Chaque évolution demande du temps. Donc, laissons aux Ukrainiens et à l'Ukraine le temps. Eux savent comment le gérer. Et je crois que peut-être l'une des erreurs des Occidentaux, c'est de vouloir imposer une vérité ou des vérités. Avons-nous la vérité ?
Le seul problème, c'est que certaines vérités s'imposent de manière un peu dramatique ici, quand on a envie, justement, même si on sait qu'il y a le facteur temps, qu'il y a aussi des choses qu'il va falloir débloquer, quand certaines vérités s'imposent trop brutalement, il y a de quoi parfois désespérer Boulogne, pour parler en termes familiers, quand on est investisseur, ici, dans ce pays.
Vous voulez parler de la corruption ?
Bien sûr. Moi, j'ai pas prononcé le mot.
C'est moi qui en parle. Elle est le mal de nombre de ces pays.
De l'ancien empire soviétique, de toutes ces républiques satellites.
Pas seulement. Je veux dire, regardez dans le monde les pays où il y a de la corruption. Il est vrai que cette corruption qu'il y a ici en Ukraine, elle est à tous les niveaux. Elle est à tous les niveaux, pourquoi ? Au plus bas niveau, parce que les salaires des fonctionnaires ne sont pas assez élevés.
Donc c'est un complément.
Donc, quand vous donnez une petite pièce de 20, 50 ou 100 dollars pour faire avancer un dossier, moi je considère que ça n'est pas de la corruption. Alors ça n'est pas conforme aux directives de l'OCDE, mais néanmoins, quand un personnel gagne moins de 100 dollars par mois, comment peut-il vivre ? La société devient plus individualiste, plus égoïste aujourd'hui. Parce que le crédit s'y est développé, et notamment les petits crédits à la consommation qui ont largement perturbé la vie familiale, rendant des fins de mois extrêmement difficiles, permettant des achats non indispensables de tablettes, de téléphones extraordinaires. Donc je crois que les systèmes dits capitalistes ont aussi leur part de responsabilité.
Il y a une autre Odessa. On quitte Odessa, la languie, la superbe, la baroque, l'européenne, et on arrive à la plage, Arcadia. On arrive où ? À quoi ça ressemble, Christophe Lacarin ?
Les plages d'Arcadia sont les plages de la grande fête, particulièrement la nuit. Donc, grande vie nocturne.
Qu'est-ce qui se présente devant nous, là ?
Alors, je suis stupéfait parce que il y avait quelque temps que je n'étais pas venu.
Cette mer noire, cette bordure est un terrain de jeu pour l'ensemble des touristes de l'Ukraine qui, d'ailleurs, aujourd'hui, ne peuvent plus aller en Crimée.
Alors, non seulement de l'Ukraine, mais les Russes venaient beaucoup avant ici. Beaucoup. Les plus belles femmes, les plus belles filles de Russie et des ex-républiques soviétiques passaient l'été à Odessa pour trouver fortune, pour trouver le Charming Prince. Venez, on va marcher. Ce qu'il y a de merveilleux en Odessa, c'est que vous pouvez travailler le matin jusqu'à par exemple 14h et puis faire un break en 10 minutes, vous êtes à la plage et puis vous revenez travailler le soir jusqu'à 20h ou 22h et ensuite la nuit s'ouvre à vous.
Le tourisme est une industrie qu'on sait être polluante.
Alors en période de crise comme celle que vit l'Ukraine aujourd'hui, le tourisme est l'activité, le segment, on va dire, qui a le plus de chances de se développer le plus vite possible et qui sera le plus rapidement générateur de profits pour la région et pour l'Ukraine en général. Bien sûr qu'il y a des pollutions, et les pollutions, c'est tout ce qui a trait à, malheureusement, la prostitution et ce qui l'enrobe, c'est-à-dire tous les trafics.
Plaque tournante du tourisme sexuel en Europe, dit-on ?
Malheureusement, oui. Il y a eu un développement important. On voit ces jeunes femmes, très belles, et qui, malheureusement, n'ont plus que cette ressource-là. Ça, c'est l'établissement qui s'appelle Ibiza. C'est un haut lieu de la vie nocturne. C'est un endroit chic.
Et évidemment, cette côte est entièrement bétonnée. C'est-à-dire que les immeubles qui nous entourent, c'est un mélange De grandes mottes, de mauvais goût, évidemment. C'est arrogant. C'est... Je sais pas, il y a peut-être d'autres qualificatifs qui vous viennent à l'esprit.
Moi, je dirais qu'Odessa, c'est une ville de décors de théâtre.
Ouais.
Voilà. Et donc, ce sont des décors qui sont plaqués les uns à côté des autres. C'est pas forcément du mauvais goût. Vous savez, quand on a de l'argent, certains le dépensent d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas de culture de l'argent. Et dans les pays émergents, comme il n'y a pas de culture, il n'y a pas de vieille famille, alors il faut extérioriser. Les grosses voitures, les vêtements les plus chers, les maisons les plus extravagantes. Et dans les réalisations immobilières, et de la même manière, les promoteurs immobiliers, vous voyez, ont des décorations avec des stucs, etc. Voilà, c'est le tape à l'œil, c'est le décor de théâtre. Mais c'est Shakespeare qui disait « The world is a stage, where men and women, they have their entrances, but also they have their exits. »
Le monde est une scène de théâtre. Les hommes et les femmes ont leur entrée, mais aussi leur sortie. Belle introduction à l'univers suivant, à mes yeux plus séduisant, vers lequel nous nous dirigeons après la superfétatoire Arcadia touristique. Et ceci toujours au volant du 4x4 épuisé, mais debout du marquis qui lutte et ne baisse pas les bras. Et cela pour notre scène finale au Décite.
Cigare.
Да.
Это наш друг француз Александр, журналист. Это наш Тамара.
Ah, Christophe Lacarin, on a rendez-vous avec une de vos vieilles amies ici au musée Pouchkine. Elle le dirige. Son nom?
Alla Nirsha. Добрый день, madame. Как дела? Bon, directeur à toutes.
C'est évidemment avec une des bouteilles de vin produit sur votre propriété que vous rentrez dans le bureau de la directrice. Alla Nirsha, quelle est la dans ce musée qui est votre seconde maison, quelle est la pièce ou quel est l'objet ou quel est le manuscrit ou quelle est tout simplement la chose que vous auriez envie de me montrer, de me commenter? Son écritoire.
J'adore ça parce que c'est le brouillon d'une poésie de Pouchkine, la dernière, qui était écrite à Odessa. Regardez, pas un mot changé. Alors, pour trouver cette harmonie, cette mélodie, Pouchkine travaillait.
Vous dites pas un mot n'a été changé, c'est au contraire, tous les mots sont raturés, changés. C'est étonnant de voir ça.
Oui, voilà. Et très souvent, on dit que, comme Pouchkine, il est si génial qu'il est né avec la rime dans sa bouche. Mais. Bien sûr, la génie, c'est toujours aussi le grand labeur. Et ici, à Odessa, il a fait beaucoup. Il a passé 13 mois à Odessa. Il a écrit 2 demi-chapitres d'Evgeny Onegin. Il faut dire que le premier chapitre était écrit ici, dans ses chambres. Et il faut dire qu'il est venu ici comme un poète romantique. Et pendant toute cette période, il est tellement transformé qu'il a quitté notre ville comme un poète réaliste. Et bien sûr, il a passé la vie à Odessa, comme beaucoup d'Odessites, pour se balader dans la rue, pour avoir trouvé le plaisir en écoutant l'opéra.
Il disait qu'ici, il se sentait en Europe. C'est une ville où on peut sentir l'Europe.
Oui. Mais il faut dire aussi qu'il y avait vraiment la vie intérieure, presque clandestine, et nous gardons et même nous sentons la présence de Pouchkine.
Et on sent toutes les présences aussi dans cette ville des autres écrivains, parce que c'est une légion d'écrivains qui ont adopté Odessa, qui y sont passés, qui y ont séjourné plusieurs fois, Tolstoï, Gogol, et puis peut-être d'autres qui m'échappent à l'instant, Mark Twain, il y en a d'autres qui reviennent.
Mais oui, bien sûr, et Odessa était toujours la ville littéraire, peut-être grâce à Pouchkine. Lui était le premier qui a donné, peut-être, on peut dire comme c'est la pierre sur laquelle est placée toute notre culture, pas seulement la littérature, parce que on trouve dans la musique, dans la peinture, dans beaucoup de beaux-arts, l'inspiration chez Pouchkine. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi, très intéressant.
Masque-là ?
Ce masque pris après sa mort, tout de suite.
Là, on a l'impression qu'il respire encore et qu'il ferme les yeux pour vous écouter.
Противники должны были стрелять по моему сигналу.
Attendez! J'ai encore assez de force pour tirer. Pistolet! Alexandre, Sacha.
Des fois, je suis sûr que qui vous accompagne.
Vous savez, avec Pushkin, c'est toujours intéressant puisque les dernières minutes de sa vie et sa mort est décrit par notre poète Joukovski, qui connaissait bien Pushkin, qui l'aimait beaucoup, et c'était vraiment la tragédie pour la culture, toute la culture russe, pas seulement la culture, pour toute la société russe, sa mort. Après ce duel tragique. Voilà. Je peux me montrer.
Mes dunes ondulent, fines particules, prêtes à s'éparpiller dans le vent, le mouvement des marées. Sur cette étroite bande de vie plane un silence troublant, ce monde en réduction disparaîtra bientôt au hasard des courants. Je vais devoir partir sur la ligne d'horizon où glisse le cargo. Tout droit vers l'Angleterre, je veux voir ces vaisseaux me poser sur la mer.
France Inter. Tierra de Alianza.
Odessa, cette quatrième étape en Terre d'Alliance, eh bien c'est fini. Notre voyage se prolongera samedi prochain, où nous changerons de continent pour nous envoler vers Buenos Aires et l'une de ses plus prestigieuses et anciennes alliances du réseau. Remercions ici toute l'équipe du directeur Pascal Fourneau à l'Alliance française d'Odessa et Marie-Annick Duard, attachée de coopération à Kiev. Toutes les références bibliographiques et discographiques sont sur notre page internet franceinter.fr. Saluons le travail de la réalisatrice du film Odessa, Odessa, Michaël Boganin, qui nous a accompagnés toute cette heure. Notre page contient aussi un bonus multimédia élaboré par Léa Minot, notre attaché d'émission, assisté de Rachel Chiche, programmation musicale Thierry Dupin, mixage Stéphane Poitevin, à la console de diffusion aujourd'hui, Anne-Laure Cochet, une série réalisée par Bertrand Chometon et proposée par Alexandre Hérault en collaboration avec l'Alliance française.